Radio Campus Paris, 93.9, 21h, vous écoutez Music Hall. Un vendredi tous les deux mois, pendant une heure et demie, je reçois celles et ceux qui font la musique d'aujourd'hui. Chanteurs, chanteuses, groupes, musiciens, musiciennes, instrumentistes viennent me parler d'eux, de leur parcours, leurs projets, leurs passions et interprètent des titres en direct. Ce soir, c'est avec joie que je reçois Simon Chenet, guitariste, compositeur, interprète de musique du monde. Son fil rouge, la guitare. Trois disques lui sont consacrés. Simon préfère la laisser chanter que de chanter lui-même. Mais ça, c'était avant, puisque désormais, il se prête à l'exercice du chant. Discipline non moins exigeante. Et cette émission est un challenge pour lui, puisque des reprises et des titres originaux sont attendus en guitare-voix. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Barthélémy. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, tout le monde.
J'espère que tu vas bien.
Bah, très bien, merci.
Bienvenue au studio La Caisse Claire. Nous sommes en direct avec Patrick, alias
Jingleman,
qui est avec nous. Pour la première fois, nous enregistrons une émission avec du public, en live avec du public. Donc nous avons 6 personnes avec nous ce soir.
Vous pouvez faire du bruit parce qu'on va.
Voilà, que vous entendez.
Oh, c'est timide tout ça.
Voilà, c'est une nouveauté, puisqu'on ne l'a jamais fait, donc on est très content de recevoir tout le monde. Et on va attaquer avec un titre enregistré de Simon Chenet, qui s'intitule « Miroir » de ton dernier album, Simon, qui est paru en 2026. L'album s'appelle « Face au labyrinthe », c'est bien ça ?
Tout à fait.
Voilà, on y va pour « Miroir ».
Thank you.
De retour sur Radio Campus Paris 93.9, nous sommes avec Simon au studio La Caisse Claire et Jingleman. Simon, est-ce que dans ma présentation tout allait bien? C'était à peu près, ça te représente? Parce que j'ai toujours peur, je prends des risques comme ça et puis après je vois si j'ai fait des erreurs, on me dit non mais attends, t'as dit que je faisais de la chanson instrumentale mais pas que, nanana.
Je trouvais ça très bien, c'est un peu difficile pour moi de définir ce que je fais, là j'ai trouvé ça très bien, ça se voit que t'as écouté, t'as regardé, ça fait plaisir.
Bon, moi ce qui m'a le plus interpellé quand je me suis intéressé à toi, c'est le fait que tu produises de la musique instrumentale, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est très rare déjà, je pense que ça a le mérite d'exister et ça aurait le mérite d'exister davantage. Tu es guitariste, alors aujourd'hui comme je l'ai dit, tu t'essayes à l'exercice du chant, mais tes trois disques sont exclusivement instrumentales. Là, on entend des échos de chœur dans ce dernier titre, là, dans le fond, mais ta musique, enfin, ces trois albums auxquels j'ai fait référence, sont instrumentaux.
Eh ben, c'est vrai que moi, une des contraintes créatives que j'ai, c'est de faire chanter ma guitare, et donc que la guitare soit captivante comme un chant. Donc c'est une vraie contrainte, puisque la voix, ça reste quand même l'instrument premier, hein, c'est l'instrument du corps, et donc les gens se rattachent à la voix. Et je pense, pour l'instant, hein, peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que je vais avoir envie de chanter à un moment ou un autre, je chante un tout petit peu en concert, mais cette contrainte m'oblige à me surpasser, à me dépasser pour que ça soit captivant, pour que ce soit... C'est-à-dire que je vais faire de la musique instrumentale, mais pas élitiste. J'ai pas envie de faire un concert que pour les fans de guitare, j'ai envie que ce soit populaire, que ça plaise aux enfants, aux personnes âgées, aux adolescents, enfin à tout le monde. Ou des gens qui parlent pas français, des gens donc j'essaye que la guitare soit captivante et c'est un vrai défi quand tu joues une heure et demie pour garder les gens concentrés, les captiver, transmettre des émotions avec la guitare et pas dans la démonstration technique. C'est-à-dire que c'est pas un concours de rapidité et pas du tout. J'essaie de pas être là-dedans, donc plutôt dans la transmission d'émotions, quoi, de mélodie, de groove, d'atmosphère. Donc c'est vrai que c'est un défi et c'est original. C'est vrai que des fois quand on dit instrumental, les gens, ils ont un peu peur. Tu vois, ils vont se dire, ah mince, ça va être un peu chiant ou un peu... Et moi, je veux pas justement que ce soit chiant. Je veux que ça soit un moment de partage, un moment de rêverie ou festif. Donc, c'est vrai que je me suis créé une contrainte un peu, je me rends des difficultés. Mais en même temps, c'est ce qui me permet de m'exprimer personnellement.
Et à quel moment tu t'es dit, bon, je vais peut-être chanter un peu?
En fait, accompagner des chanteurs, j'ai eu des groupes où j'ai fait des chœurs, j'ai pris plaisir. C'est vrai que des fois j'ai des remarques, c'est bien, mais ce serait bien qu'il y ait de la voix et tout. Et puis aussi, j'ai beaucoup composé pour des chanteurs. J'ai fait beaucoup de morceaux pour des chanteurs, chanteuses. Et j'apprécie composer avec un chanteur. Et en plus, j'aime le texte. Donc, Mais non, j'ai eu envie, c'était un peu un défi de chanter un ou deux morceaux sur scène. Des morceaux que j'ai joués avec d'autres groupes. Ou que j'ai composé avec des chanteurs. Ah si, c'est ça. J'ai chanté un morceau, sorti un titre que j'ai fait avec un chanteur suédois. Et quand il est sorti, le chanteur n'était pas là. Et le titre a eu un peu de succès, donc je me suis dit, tiens, je vais le chanter sur scène pour défendre le morceau, puisque je venais de le sortir. Les gens, je me suis dit, les gens vont l'attendre, et j'ai pris plaisir. Et du coup, c'est un morceau que je chante assez régulièrement. Et puis j'ai rajouté un autre morceau. Et puis là, aujourd'hui, je vais chanter pas mal de morceaux, et pour moi, c'est une première.
Parce que tu as une déjà longue carrière, de combien d'années si tu devais l'estimer?
Ça dépend de ce qu'on appelle carrière, mais j'ai commencé la musique jeune et j'ai toujours fait que de la musique. J'ai travaillé dans la musique, on en parlait, moi j'ai donné des cours de guitare adolescent. Après j'ai écrit des articles sur Audio Fanzine, j'ai fait de la musique...
T'as écrit des articles, t'as été journaliste.
De musique, je testais du matos.
Ah oui.
J'ai fait du jeune public, j'ai eu des groupes surtout, je suis un mec de groupe, j'ai eu beaucoup de groupes, donc j'ai toujours fait que de la musique. J'ai été animateur dans des colonies musicales.
D'accord,
VMSF.
Exactement, voilà. J'ai fait ça à 17 ans, 17-18 ans, donc j'ai toujours fait de la musique. Voilà.
On va revenir là-dessus parce que tu m'as dit au téléphone quand on préparait cette émission, tu m'as dit moi je suis un mec de groupe, comme tu viens de le dire là. Donc tu as eu beaucoup de groupes, tu as fait partie de bon nombre de projets, dont certains qui existent encore aujourd'hui. On va les prendre un peu dans l'ordre, mais quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais chanter, notamment des reprises, etc., t'as voulu chanter une vieille chanson Il s'appelle « C'est la vraie de vraie », une chanson de 1934 qui a été interprétée par Frel, par Jean Sablon, parce que tu m'as dit, moi, ce sont un peu mes origines, c'est la musette, c'est l'accordéon, le bal musette, les chansons anciennes, etc., les chansons populaires parisiennes, la gouaille, le jargon, l'argot, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous expliquer d'où tires-tu ces origines-là et d'où ça vient ?
Eh bien, dans ma famille, il y a pas mal de musiciens dont c'était le métier. Donc, mes deux oncles, Mimi les Toc Toc, ma tante, Minelle. Donc, moi, j'ai grandi dans cette ambiance. Eux, ils chantent. Mimi, c'est pour moi le plus grand chanteur de musette parisien, enfin sur Paris. Et Minelle, elle joue encore tous les vendredis, samedis à Belleville. C'est la reine de l'accordéon musette. Donc, moi, j'ai vraiment vécu dans cette ambiance.
Elle joue, c'est ta tante. Hein.
Ouais, elle joue au vieux Belleville tous les vendredis et samedis et je vous encourage à y aller.
C'est vraiment à quelle magnifique.
Bon, je sais pas, ça doit être 20h, 21h, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vas à Belleville, en haut de la butte, là.
Minelle, hein.
Ouais, au vieux Belleville.
C'est incroyable, c'est son nom.
Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans, cette ambiance guinguette, balmusette, bal des pompiers, moule frites. Quand j'étais petit, tu vois, je jouais avec mes cousins, cousines.
À Antony, du coup
ou... Un peu partout, un peu Antony. Je sais plus, j'étais petit, hein. J'allais où on me trimballait, mais... Donc voilà, j'ai grandi là-dedans, et c'est aussi mon exemple un peu de ce que c'est que la musique professionnelle. Après, quand j'ai commencé la musique ado, bien sûr, j'ai toujours aimé la musette, mais au début, voilà, c'était pas trop à la mode, quoi, donc j'étais plutôt dans le rock, j'ai monté un groupe de rock garage avec mes copains, quoi. Mais c'est vrai que j'ai baigné là-dedans, j'ai toujours adoré ça, et c'est un peu mon exemple, et... Voilà, moi j'adore, ça me touche beaucoup.
L'accordéon. Tu me disais au téléphone, la musette, maintenant, c'est démodé, tout le monde s'en fout. Les gens, en plus, n'aiment pas trop l'accordéon. T'es sûr de ça ?
Je ne sais pas si on doit dire ça à la radio, mais moi j'adore l'accordéon, j'adore la musette, mais c'est vrai que, si tu veux, on a un bel héritage en termes de répertoire, de chansons, de style, d'esthétique, même de danse, tu vois. Parce que la java, ça peut être magnifique, tu vois. Moi, si je fais une musette et que je dis aux gens ça danse la valse, les gens ils adorent, ils s'éclatent, tu vois. Et on a un beau répertoire, on a un beau folklore qui n'est pas du tout, en tout cas pas parisien, ce que tu veux, banlieusard, même français, qui n'est pas exploité. Alors le swing manouche existe en termes de folklore, mais la musette, on l'a un peu invisibilisé. Je trouve ça dommage, après c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi j'adore ça, moi je suis fan des accordéonistes. Et j'ai l'impression que, ouais, souvent, quand tu dis les gens n'aiment pas trop l'accordéon, pas tout le monde, mais c'est pas comme la guitare, quoi. Et bon, c'est comme ça. Mais moi, j'adore ça, en tout cas.
Ouais, c'est un super instrument. Hein.
Un super instrument, et pas que en France, sur toute la planète. Et il y a des super accordéonistes français, en ce moment, qui font des trucs vraiment incroyables. Mais voilà, la musette, tout le répertoire, la chanson, tu vois, De toute façon, la France n'est pas très forte dans le folklore et Paris encore moins, j'ai l'impression.
Aujourd'hui, tu veux dire ?
Aujourd'hui, ouais. Et la chanson française, tu vois, il y a tout un truc, c'est magnifique. On ne pousse pas trop au développement de ça et la musette encore pire.
Est-ce que ça a été remplacé ? Parce que la musette, était fédératrice. Elle rassemblait dans les bals populaires, elle rassemblait dans les villages.
Ouais.
Je sais que c'était très répandu dans la Marne, vers Nogent, tout ça. Il y a des tas de chansons, d'ailleurs, qui parlent de ça, de Bourville ou d'autres. Hein. Et c'est vrai qu'on sent que c'est tout un monde qui est très attirant, qui avait l'air de fédérer beaucoup de gens. Moi, mon arrière-grand-mère m'en parlait beaucoup. Et moi, je me dis, mais aujourd'hui, est-ce que ça a été remplacé ? Parce que bon, si à la limite, on se dit, on se retrouve autour d'un autre univers, d'un autre courant musical, etc., pourquoi pas ?
Bien sûr, et puis la musique est là pour vivre. Et je remarque juste qu'il y a de plus en plus de guinguettes qui rouvrent un peu partout en France. Moi, je joue pas mal dans des guinguettes en Bretagne, au bord de la Loire, bien sûr, sur la Marne et tout. Les guinguettes reviennent parce que l'esprit guinguette, les gens aiment bien. C'est l'été, ça ouf, c'est festif, ça peut être familial, ça peut être entre copains, tu vas boire un coup, tu profites un peu de l'air frais, il y a de la musique. Et ça, c'est vrai que ça revient et c'est très cool, cet esprit guinguette. Bah, disons, moi je suis pour que les musiques, je suis pas trop, même moi ce que je fais, c'est pas du folklore. Là, je vais faire des reprises, mais moi je suis dans la composition. Donc pour moi, le folklore évolue, ça bouge, je suis pour que la musique évolue et c'est très bien. Après, moi j'ai un attachement particulier Je regrette pas que ça n'existe pas plus, mais je vois qu'il y a un répertoire incroyable qui n'existe pas, qui
n'est pas exploité, quoi, ouais, qui n'est pas repris,
dont les gens ne connaissent pas. On parle même pas de l'histoire de ça. Les gens ne connaissent pas, en fait.
D'autant que je précise, juste après ça, je vais te demander d'aller interpréter ta première chanson qui s'intitule « C'est la vraie de vraie », donc qui est la fameuse reprise que j'évoquais tout à l'heure de 1934. Alors, c'est un texte d'André Decaille et d'Émile Deloire. Je sais pas si tu connais, c'est des auteurs de chansons musettes. Elle a été interprétée par Frêle et Jean Sablon, comme je disais tout à l'heure. Enfin, par Frêle d'un côté et une autre version de Jean Sablon. J'ai pas vu d'autres interprètes vocaux chanter cette chanson-là.
Bah, voilà. T'as Mimi et Ramulo, mon tonton, qui la chante.
Déjà, voilà. Enregistré ?
Oui, mais bon, il n'est pas sur les...
Pas sur Internet.
Il n'est pas sur les plateformes.
Et je vais te laisser t'installer, Simon, pour la chanson. Et je précise juste que l'accordéon, ça reste... C'est ça qui est surprenant. Et tu rebondiras dessus, Simon, derrière, si ce que je dis résonne. Mais... ça fait partie des instruments polyphoniques, comme le piano, comme la guitare, il n'y en a pas 50. Ça fait partie des instruments où tu peux faire des accords, tu peux faire je ne sais pas combien de notes à la fois. Ce qui permet, c'est le substitut de l'orchestre au même titre que le piano ou que la guitare.
C'est orchestral, l'accordéon. C'est-à-dire que le gars peut faire les accords, le thème et la basse en même temps, ce qui fait que l'accordéoniste met l'ambiance tout seul, quoi.
Ouais.
C'est hyper intéressant.
Et c'est fou que ce soit moins exploité. C'est bon pour vous ?
Donc, c'est la vraie de vraie.
La vraie de vraie, interprétée par Simon Chenet.
C'est la vraie de vraie, celle que l'on dansait avant la guerre au bal de la glacière. Les Java de maintenant, c'est trop élégant. C'est tout rempli de chichi et bon pour les caves qui se croient affranchis. Mais nous les voyous, quand on est chez nous, nous dansons toujours sur nos vieux amours. Dites à regardez ça madame, ce qu'elle est batte cette java-là. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait pour les michetons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à pognon. Non, c'est nous seuls qu'on l'a fait, c'est la vraie de vraie. Pour mieux l'apprécier, venez donc l'essayer avec les frappes au bal de la rue de Lappe. C'est un quartier charmant, tout rempli de jeunes gens, tout à l'amour réel et au corps tatoué de serments éternels. En sortant de leurs bras, vous penserez tout bas, sûr que mon mari les a moins gros que lui. Les bras, mesdames. Dites à regardez ça mesdames, ce qu'elle est batte cette java-là. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait pour les michetons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à pognon. Non, c'est nous seuls qu'on l'a fait, c'est la vraie de vraie. En guinchant ce truc-là, le cafard s'en va. Si vous êtes raide, ben c'est le meilleur des remèdes. Et si vous êtes cocu, vous n'y penserez plus. Et quand la gosse vous tient, même si vous êtes sous, ben vous restez debout. Oui, ça guérit tout, cocu et jaloux. Et ça met dans le cœur un petit peu de bonheur. Dites à regardez ça madame, ce qu'elle est batte cette java-là. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait pour les michetons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à pognon. Non, c'est nous seuls qu'on l'a fait, c'est la vraie de vraie.
Bravo! Je laisse Simon se rasseoir. Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. Merci Simon pour cette chanson.
Un petit peu de gouaille.
Ça fait du bien.
Ah, c'est le texte que je trouve extraordinaire, moi. Le texte, il est saisissant. On est dedans.
Il y a tout un beau répertoire de chansons comme ça. Voilà. Bon, allez voir. Mimi n'est pas sur les réseaux, malgré. Enfin, il n'est pas sur les plateformes, mais.
Non, mais on va aller. Moi, j'habite à Belleville.
Ah ben, vas-y.
J'habite à Jaurès.
Tu vas passer une super soirée.
D'accord. Samedi soir ou vendredi soir, tu as dit.
Pratiquement tout le temps, au vieux Belleville.
Voilà, là c'était pour tes influences chansons françaises, Musette. Très rapidement, je sais que tu as monté des groupes, comme tu disais, t'es un gars de, j'adore cette expression, je suis un mec de groupe moi. Et du coup, je voudrais que tu fasses référence au premier groupe que t'as monté et que petit à petit, tu nous parles voilà, des groupes que t'as rejoints au départ. Tu m'avais parlé de rock, de mémoire, que c'était plutôt que t'as bifurqué vers autre chose, mais qu'à la base, ton premier groupe s'appelait Joke.
Bah, c'est mes copains du collège, hein. On s'est dit, venez, on monte un groupe de rock. On était en cinquième, on s'est partagé les instruments. Et bah, je joue encore avec eux, tu vois, donc c'est vraiment une belle histoire. Et on est dans les années 90, hein, le groupe se monte, on est en 91 ou 92. Donc on est dans l'ambiance Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Rage Against the Machine, enfin, on était dans la fusion. Mmh. Donc voilà, on a donc avec ce groupe... C'est une belle histoire, on a fait beaucoup de concerts dans les années 2000, on a sorti plein de disques. Et là, on continue ensemble, on vient de sortir un disque encore. Mmh. Et on tourne un peu, alors beaucoup moins qu'avant. Mais on a toujours la même équipe, et c'est une belle histoire.
Vous êtes trois ?
Alors, on était quatre au départ. Après, le groupe s'est agrandi avec des cuivres, avec un DJ qui scratchait, puis un clavier qui a remplacé le DJ. Les gens ont tourné un peu. Et là, on se retrouve encore à quatre. Comme au départ, basse, batterie, guitare, chanteur.
D'accord, les mêmes.
Ouais. Alors le bassiste, non, il a une doublure, parce que le bassiste d'origine habite maintenant, il est dans les Alpes, et il vient de temps en temps, cet été on fait une tournée ensemble, donc on est tous les quatre d'origine, mais quand on joue à Paris en général, c'est un autre copain qui le remplace.
D'accord.
Mais batteur et chanteur sont les mêmes d'origine, et c'est une belle histoire.
Vous avez fait beaucoup, beaucoup de concerts, quand même.
Il y a une période où on jouait beaucoup. On a joué presque tous les pays d'Europe. On a joué un peu partout. Il y a une période, ouais, les années 2000-2010, on jouait énormément. Et ça marchait bien. Cet été, on repart en tournée sur la côte croate. Et un peu de Slovénie, peut-être de Serbie, mais on a eu un peu de succès là-bas. Après, c'est un groupe très indépendant. C'est vraiment du rock indé, engagé. On n'était pas du tout dans une démarche commerciale, mais plutôt... alternative. On était vraiment rock alternatif, tu vois. Et on l'est toujours. Et je ne me suis pas professionnalisé avec ce groupe. Enfin, je me suis professionnalisé musicalement. J'ai appris le métier, quoi. Mais on n'était pas dans une démarche de cachet. On était dans une démarche d'autoproduction et de fête.
Et comment vous faites pour obtenir toutes ces dates de tournée, etc. Vous êtes suivi professionnellement ou vous arrivez... C'est la longévité,
Alors, ce groupe a une histoire. On nous a proposé de partager. On est parti en bus avec plusieurs groupes dans les Balkans en 2005. Et après, on est reparti. Et après, on a créé une histoire un peu. C'est vrai que quand tu crées une histoire avec des endroits, il y a un truc qui se passe.
Avec l'association Allez, on le fait, non ?
Ouais, c'est ça. Ouais. On a fait 2005 et 2007.
AOLF.
Et du coup, on a plein de copains, musiciens un peu partout. Après, c'est un groupe qui a toujours invité des musiciens sur scène, dans les disques. Il y a un beau réseau qui s'est créé, parce que c'est un groupe qui est dans le partage. On est parti jouer en Algérie, on s'est fait plein de copains algériens. Après les concerts, c'est des mails, des coups de fil. Et puis, t'as une réputation qui te suit. C'est sûr que Joke, avec l'expérience, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais Joke, j'adore, oui, mais grave !» Les gens, ils savent que ça va être bien.
Et c'est pas une blague, quoi.
Non. C'est un nom qu'on a trouvé avant Internet. Hein. Parce que Joke, sur Internet, c'est un peu dur à trouver. Mais à l'époque, en années 90, Joke, c'était cool comme nom.
Ensuite, c'est quoi le groupe qui intervient dans ta vie après ?
Après, alors, j'ai eu deux autres groupes. Et à un moment, j'avais trois groupes, quoi, quand j'étais au lycée. Il y a un groupe qui s'appelle La Smala, qui a duré un moment, qui était un peu musique du monde, un peu reggae, acoustique et tout, avec... D'autres musiciens avec que je vois encore souvent et qui je travaille par ailleurs. Et après, j'ai un groupe qui a beaucoup tourné qui s'appelle Yapa. Et donc là, c'était trois guitares et un percussionniste. Et en fait, c'est ce qui m'a mis un peu dans la musique instrumentale, puisque Yapa, c'était de la musique instrumentale. Un peu le même démarche que ce que je fais, sauf que c'était acoustique et qu'on était trois guitaristes. Et celui qui l'a monté, Christophe Combet, lui, à l'époque, il avait vraiment... un coup de cœur sur un trio, Aldi Meola, Paco de Lucia et John Scofield, c'est ça. Et du coup, lui, il s'était mis à la guitare classique pour faire un peu Paco de Lucia, et il m'a appelé, on a trouvé un troisième guitariste. Et ce groupe, donc, qui fait un truc un peu original, qui m'amène un peu à la musique instrumentale, qui faisait de la musique. Au début, on a essayé de faire un peu de la technique, puis on s'est dit, ah, c'est peut-être pas là-dessus, chacun son tour, son solo. Les gens, au bout de 10 minutes, ils se mettent à parler, ils s'en foutent. On a commencé à composer des morceaux plus arrangés, plus cinématographiques. Et bah, il se trouve que ce groupe a plu à beaucoup de gens. Et qu'à un moment, on est parti jouer, on a eu une... Pareil, ça a eu des beaux succès. On a signé en maison de disques. On a eu un single qui a bien marché. Et c'est là que je suis devenu intermittent du spectacle et que d'autres choses. J'en ai eu un manager, un tourneur, etc., un attaché de presse. Et notamment, donc, ce disque a bien marché. C'est un disque qu'on a enregistré au Burkina Faso.
Avec des musiciens burkinabé.
Voilà. En fait, on a été invité à jouer au festival jazz à Ouagadougou en 2008.
Le groupe existait depuis combien de temps ?
À une dizaine d'années, à peu près. Il a dû se former vers fin des années 90, début 2000, tu vois. Peut-être 2000, je ne sais plus. Si j'étais encore au lycée, donc 98, tu vois, je pense. Et il y avait déjà eu trois CD avant le disque burkinabé. Ah ouais, moi j'ai toujours fait beaucoup de disques, hein. Ça, je veux pas embrouiller tout le monde.
Je comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est d'enregistrer un disque en Afrique. Peu l'ont fait. Ça me fait penser à Paul Simon avec Graceland, ce que tu racontes.
Je suis assez fan de Paul Simon. Mais
du coup, raconte-nous un peu le Burkina.
Alors, on est invité au festival jazz à Ouagadougou. Donc, on est hyper contents.
Parce qu'on vous avait découvert, on s'est dit purée.
Parce qu'on a envoyé des mails comme ça, un peu au pif, tu vois. C'était pas moi, c'est Christophe qui avait envoyé des mails un peu à droite à gauche. Et le programmateur, ben, il a un coup de cœur sur Yapa. Les gens aimaient bien Yapa. Hein, je vous encourage à écouter, ça a beaucoup plu. Et là, moi, peu de temps avant de partir, je vais à la FNAC et je vois un disque qui vient de sortir, la nouvelle révélation burkinabé, Victor Démé. J'achète le CD, parce que j'étais consommateur de CD à l'époque. Et c'est magnifique. Et dedans, il y a un contact produit par deux Français, tout ça. Il y a un téléphone. Je passe un coup de fil. Un peu au culot. Et je tombe sur David Comélias qui dit ouais, c'est cool, il écoute la musique, il aime bien. Je crois qu'il est venu nous voir jouer. On jouait dans un tout petit bar à champagne sur les Champs-Élysées, coincé entre les chiottes et les escaliers et tout. Il a vraiment aimé. Il me dit attends, je te donne le contact de mon copain qui est sur place, qui a un studio là-bas, Camille Louvel. Je contacte par mail Camille. Et il me dit, trop cool, viens, nous on va partir avec Victor Démé, donc il commençait sa carrière au moment du festival, mais vous venez, on se voit, puis après je te laisse les clés. Trop cool.
Ah ouais.
Donc on part pour le Burkina avec l'idée de faire le festival Jazz à Ouagadougou et d'enregistrer un disque. On part avec quelques idées de morceaux, on part avec notre ingé son, on arrive, j'essaie de la faire courte, hein, mais c'est une belle histoire. Ouais. Et on retrouve sur place un groupe que j'avais rencontré. J'étais parti en Algérie avec Joke et je m'étais lié d'amitié avec un groupe qui s'appelle Djemaou Afrika.
Que vous retrouvez là-bas, sur place.
Qui était programmé aussi. Donc on les invite, on les fait venir au studio. Donc on se retrouve les Algériens, les Français, les Burkinabés. On mange tous ensemble, on fait de la musique. Ça compose dans la cour et ça enregistre dans le studio au fond. Un tout petit studio où il fait 50 degrés. Et donc il y a une super ambiance, une super émulation. C'est vraiment un moment, beau moment. On enregistre ce disque plaît, on signe chez Naïve à l'époque, et il y a un succès d'un morceau avec Victor Démé. Et au milieu de la... Ils partent, après, il y a toute une histoire, hein. Moi, après, j'ai accompagné Victor Démé. Je suis retourné au Burkina, j'ai refait Jazz à Ouaga, j'ai fait Rock à Ouaga, j'ai enregistré d'autres disques avec des... Enfin, il y a une vraie histoire d'amour avec le Burkina Faso.
T'es allé plusieurs fois au Burkina?
Ouais, j'ai été pas mal de fois. Je sais plus, j'ai pas compté. À un moment, il y a un copain chanteur, hein, parce que quand j'y vais, c'était pour faire de la musique, hein. Et qui me dit, ouais, toi, tu vas venir habiter au Burkina et tout. Je fais, non, j'aime bien venir, mais...
Qu'est-ce que t'as retenu? Vous avez enregistré avec des musiciens burkinabés, du coup.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as retenu des instrumentistes burkinabés?
Alors, il y a plein de choses, hein, parce que j'ai bossé avec plein de gens différents, mais je vais parler d'une personne qui m'a touché. Tous ses copains de l'époque, tous les gens du collectif du studio, là, je suis resté très proche. Ceux qui sont malheureusement encore en vie, parce qu'il y en a pas mal qui ont eu... dans de voiture, palu, enfin c'est horrible, mortalité quand même assez violente. J'ai un copain, Issouf Diabaté, donc guitariste de Victor Démé, paix à son âme, qui est mort il y a pas longtemps. Donc on est assez très proche. Dès qu'il venait en tournée en France, puisqu'il a accompagné Victor Démé, qui a fait des tournées dans toute la planète, mais après il a fait Baba Commandant, qui a fait pareil, et lui, on était très proches. Il venait tout le temps à la maison, restait chaque fois que j'allais au Burkina, il était toujours, on passait toute notre vie ensemble. Il venait me chercher en moto et tout. Enfin, j'ai passé ma vie avec lui. Et donc, Issouf Diabaté, c'était mon pote, mais c'était aussi un peu un des meilleurs guitaristes à qui j'ai joué, qui m'a beaucoup inspiré. Et Issouf, ben, il est d'une famille de musiciens, mais il n'a pas appris la musique comme nous. Et lui, il n'y a pas de pédagogie là-bas. C'est, t'écoutes de la musique et puis tu travailles sur un bout de bois avec une corde tout seul, quoi. Et du coup, quand on parlait de musique, lui, il me disait des trucs genre là, c'est du mineur mélodique. C'était pas du tout la gamme mineur mélodique qu'on connaît. Hein. C'était juste, c'était mineur et c'était mélodique. Les termes n'avaient rien à voir. Et il avait aucune théorie. Et pourtant, il jouait. C'était magique. Enfin, c'est le genre de guitariste, justement, quand il joue, tout le monde est captivé. Il a fait une tournée aux États-Unis peu avant de. Décidé, il a fait plusieurs tournées aux États-Unis, et les gens étaient fous de lui. Parce que c'était un bluesman mandingue incroyable. Et là, j'ai appris à ce moment-là, parce que c'est vrai que moi, j'ai appris la musique. J'ai fait le conservatoire, le musico, j'ai eu des profs, tout ça. J'ai appris à désapprendre, quoi.
Désappris, ouais.
Ouais, j'ai appris à jouer sans réfléchir.
T'as fait un duo avec lui, non?
Ouais, j'ai un morceau sur mon premier disque où il joue.
Comment il s'appelle, tu peux, pour qu'on l'écoute?
Bouddha Brakina, c'était son petit surnom, le Bouddha Brakina.
Ok, je propose que tu ailles chanter une chanson, justement, ça tombe bien, cette circonstance, la chanson, une reprise encore, Donny Donny. Donc ça, c'est un titre guinéen, tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ce titre-là, qui est un titre 100% africain, un groupe guinéen aux influences cubaines, un titre de 1971 du groupe Bembeya Jazz, c'est ça?
Yes, Bembeya Jazz National, je crois.
National, ouais. On t'écoute.
Il n'est jamais trop tard. 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 Mes copains ont des voitures. Il y en a d'autres à l'aventure. Mes copains ont des villas. Oh mais moi je ne m'en fais pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donny Donny Kononi Banyala. Donny Donny Kononi Banyala. Il n'est jamais trop tard. 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 Mes copains ont de l'argent. Il y en a d'autres qui ont des enfants. Mes copains ont des bijoux. Oh mais moi je m'en fous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donny Donny Kononi Banyala. Donny Donny Kononi Banyala. Trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains, ils sont partis, sont un aux États-Unis, d'autres sont venus à Sceaux. Vous êtes là et c'est beau, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donny Donny Kononi Banyala. Donny Donny Kononi Banyala. Donny Donny Kononi Banyala. Donny Donny Kononi Banyala. Kononi Banyala. Kononi Banyala.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. Merci Simon pour cette belle chanson Donny Donny du groupe B, comment on dit B,
Bembeya Jazz.
Voilà, Bembeya Jazz 1971, groupe guinéen du coup. Mais tu m'as dit que la Guinée était proche du Burkina et que les influences étaient.
Oui, c'est la musique mandingue, donc de l'empire mandingue en fait. Et surtout, bah, On parlait d'Issouf. Issouf était très fan de ce groupe, Bembeya Jazz, et du guitariste, Sekou Bembeya. Du coup, j'ai beaucoup écouté avec lui. Et ça, c'est un titre, c'est un grand classique ouest-africain qu'on joue dans les cabarets, dans les maquis. Et quand tu joues, bah, les musiciens connaissent, les gens se lèvent, dansent. C'est un tube. Donc, c'est un morceau des Indépendances d'un grand groupe guinéen. Ouais.
La musique mandingue, tu peux nous dire ce que c'est ?
Eh ben, alors là, on est dans la musique, ce qu'on va dire, c'est le tradit moderne. Si tu veux, on parle dans le... Donc, l'Empire mandingue, moi, je suis pas je suis pas ethnomusicologue ni historien, mais je te dis un peu ma vision. Donc, l'Empire mandingue, c'est un grand empire où il y a le Mali, le Burkina, la Guinée, peut-être le Niger, et bon, qui a été divisé après en frontières arbitraires avec la colonisation. Mais la musique mandingue qu'on écoute, nous, donc musique des années 70, 80 et même jusqu'à maintenant, est inspirée de la tradition, donc des instruments traditionnels, balafon, kora, je sais pas, doundoun, tama, etc., etc., mais mélangée avec des instruments modernes. Et donc, il y a, quand il y a Sékou Touré, donc les Indépendances, Sékou Touré au pouvoir, lui, il veut gagner une bataille culturelle. Donc, il promeut la culture et la musique. Donc, il y a des concours de musique régionaux et nationaux. Bembeya Jazz, c'est l'orchestre national, donc a gagné les concours avec les grands musiciens. Et eux, ils les envoient même, il y a un studio d'enregistrement national, et ils les envoient jouer dans toute l'Afrique, mais aussi dans tout le reste du monde, pour défendre la culture guinéenne en mélangeant tradition et modernité. Donc, il y a la guitare électrique, il y a la batterie.
Et il y a la kora.
Et il y a la kora. Alors, Bembeya Jazz, je ne suis pas sûr, mais il y a d'autres artistes qui ont la kora. Et il y a la musique, il y a la danse, il y a sûrement le théâtre, etc. Et ce que je disais, les percussions. Souvent, l'image qu'on a de la musique africaine en France héritée des ballets guinéens, parce que le djembé qu'on a beaucoup entendu, Mamadi Keïta, il est guinéen, c'est les ballets guinéens. La danse africaine, l'image qu'on a, je pense que c'est j'imagine, c'est un peu dans mon imaginaire. Et voilà. Et donc, la musique mandingue, voilà. Mais ça à écouter, parce que ce que j'ai joué, c'est un morceau assez ensoleillé, mais il y a d'autres choses qui vont être plus mystiques pour nous, des gammes un peu plus... Il y a des choses un peu différentes à écouter, vraiment, je vous encourage. Et par exemple, un de mes grands amis burkinabés, Baba Commandant, qui a sorti plusieurs disques, qui a eu du succès, après Démé, lui, il faisait de l'afro-mandingue, de la funk, de l'afro-beat, mais mandingue. Voilà. Et avec ses couleurs, et qui souffle forcément la guitare.
Très intéressant, ce chapitre africain. Ensuite, tu as fait référence pour tes reprises et les chansons que tu vas interpréter. Une chanson cubaine, pour le coup, là. Cumbia Sobre El Mar.
C'est cubain ? Non.
Ah non, c'est toi qui sais.
Je dirais plutôt péruvien ou...
Ah bon ?
Ouais, c'est...
Ah bah, je vais vérifier pendant que tu la chantes.
Vérifie, parce que je ne sais pas non plus. Franchement, c'est un standard. Voilà, je n'ai pas un énorme répertoire de chansons, mais je trouvais ça intéressant.
C'est quelque chose qui t'attire, en tout cas.
Voilà, et c'est vrai qu'à un moment... Je suis un peu moins comme ça, mais je pense qu'il y a une période où j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup été intéressé par les échanges musicaux. C'est-à-dire que j'ai enregistré des disques un peu partout avec Yapa. On a enregistré donc au Burkina, mais on a enregistré aussi en Inde. On a fait une tournée en Inde, on a enregistré avec des musiciens indiens. Super expérience. J'ai été partout en Europe. J'ai beaucoup joué avec des musiciens d'Europe de l'Est, etc. Et j'ai quand même une belle influence de musique latine. J'ai beaucoup travaillé, j'ai un très bon copain, Mauricio Santana, avec qui j'ai beaucoup bossé. On est parti tourner au Chili et on a enregistré un disque à Cuba, ensemble. Et j'ai beaucoup joué avec lui, donc de la musique latine. Et c'est une autre influence, mais ça reste, c'est pareil. Je ne suis pas du tout un expert, ni en musique ouest-africaine, ni en musique latine, mais je m'en suis beaucoup infusé. Parce que ça me fait voyager, ça me fait rêver, et ça me ramène aussi à ce que je suis ici. Et tu vois, même... C'est en voyageant que j'ai commencé à me dire « Ah, mais en fait, la musette, c'est magnifique. » Tu vois, j'avais ça en moi, mais à cette époque-là, quand j'étais jeune, j'écoutais que du rock américain. Enfin, j'exagère un peu, tu vois. Et à un moment, quand tu voyages, ça te ramène aussi à ce que t'es toi, à ta culture. Ça fait du bien. T'as une autre vision. Enfin, je sais pas comment expliquer ça.
Tu reviens aux racines.
Ouais, ça te ramène à ta culture, etc., etc. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de musique latine aussi. D'où ce titre... Cumbia. Beaucoup de musique andine, quand même, en fait. Avec Mauricio, qui est chilien, j'ai fait beaucoup de musique C'est peut-être colombien, tu vois, aussi. Je sais pas.
Je vais vérifier.
Je dirais colombien, allez.
Et juste, est-ce que tu dirais que dans les trois albums que tu as sortis, donc le premier s'appelle Elle m'a dit de, en 2019, qui est une chanson que tu interpréteras tout à l'heure d'ailleurs. Le deuxième s'appelle Le jour des vermeils et Face au labyrinthe qui vient de sortir. Est-ce que tu dirais que les influences, là on va encore en évoquer d'autres, mais tu dirais qu'il y a une teinte particulière dans chacun de ces livres où tu dis oui, là, c'est vrai que sur ce disque-là, j'ai été beaucoup plus influencé par l'Afrique, par...
Non, là, tout ce qui est afro-latin, on va dire, je pense que ça infuse en général ma musique.
En général.
Mais le premier disque est assez world, parce que c'est un premier disque que j'ai fait un peu comme ça, hein. c'était pas prévu. J'avais des morceaux, des compositions qui traînaient dans mon ordi parce que j'avais enregistré à droite à gauche justement un morceau avec un chanteur au Burkina. Et donc, et là, c'est world parce que j'invite pas mal de musiciens différents. Donc, par exemple, le père de Mauricio qui fait des percussions traditionnelles. Il y a un joueur de bandole algérien, Fethi Najem, qui déchire, qui est passé, que j'ai fait enregistrer. Il y a des Burkinabés. Donc, il y a un peu de tout. Et il y a aussi l'accordéoniste qui joue avec mon oncle, un vieux bassiste, Michel Hervé, qui jouait avec Léo Ferret. Tu vois, là, j'avais pris des influences. Je me faisais plaisir à inviter des gens, à faire des morceaux avec eux, mes compos, mais avec plein de musiciens. Donc, il y a ces world très acoustiques. Le deuxième, je l'ai fait entre deux disques parce que j'ai eu un peu de budget. Enfin, un disque est très chill, très... Moi, je dirais folk, mais c'est pas vraiment ça parce qu'il y a un peu de tout. Mais il est très posé. Et le dernier... Bon, on en reparlera peut-être après, j'ai composé quand j'étais au Maroc, en résidence, et on m'a dit, hein, pour l'influence du dernier, quelqu'un m'a dit, le style, tu peux dire, il m'a dit quoi, musette orientale rock, ou un truc comme ça. Bon, ça reste du Simon Chenet, mais à chaque fois ça évolue, il est plus rock le dernier, je suis la guitare électrique, il est plus rock, un peu plus rock, voilà, si tu veux parler des différences, ils sont tous très cohérents, je trouve, par rapport à ce que je fais, mais chacun a son ambiance. Et le prochain sera différent. Le prochain sera plus funky et afro.
Il y a toujours des duos. Des
déjà,
duos.
Tu sais déjà.
Je l'ai déjà enregistré.
Dans le dernier, t'as déjà enregistré ?
Ouais.
Alors que celui
Tu savais pas ça.
Non.
Toujours un coup d'avance.
Non, mais celui qui vient de sortir, comment dirais-je, Face au labyrinthe, il est 2026. Donc t'as déjà enregistré celui.
Ah ouais, mais j'ai mis beaucoup de temps à le sortir le dernier. Donc j'avais qu'une envie, c'était de faire un autre disque. J'ai sorti le disque le 3 avril. J'étais en studio le 13 avril.
D'accord.
J'avais qu'une envie, c'était de faire un autre disque. Et comme ça, je pourrais penser même au suivant.
C'est marrant cette temporalité-là qui est complètement décalée, quoi.
Ouais, bah moi, si tu regardes, si là on reprend un peu ma carrière, j'ai fait des disques avec tous mes groupes. Je suis quand même, même si c'est des groupes, je suis hyper moteur dans la composition. Moi, j'adore ça et je me nourris de ça. Je me rends compte que je suis foutu. Moi, c'est toute ma vie. Les gars, je vais sortir des disques. Hein. Je viendrai vous voir. Hein, je viens de sortir un disque.
Et non, elle m'a dit, j'aime bien, c'est un album solo. Il y a que des duos ou des trios. Ouais. Là, on voit que. Pour un mec qui fait un album solo, tu restes un mec de groupe.
Le dernier album, donc celui qui vient de sortir...
Il n'y a qu'un duo.
Et là, je l'ai vraiment fait... j'ai passé beaucoup de temps chez moi à arranger. Les musiciens ont posé des trucs, mais j'ai tout rebidouillé. Là, c'est vraiment un disque que j'ai fait...
C'est Simon, là.
Ouais, là, c'est vraiment que moi. Et j'ai kiffé, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, je suis très fier de ce disque. Des arrangements, de l'ambiance, du mix et tout ça. Des compositions... Mais là, ouais, j'avais besoin de montrer... Bon, c'est une histoire impersonnelle, on en verra plus tard, mais j'avais besoin de faire un truc vraiment moi, justement. Même si pour moi, la musique, ça reste un échange, un partage. Tu vois, par exemple, il y a 2-3 ans, jamais je serais venu tout seul pour jouer et chanter. D'être tout seul. Là, je m'assume plus récemment d'être soit moi, c'est mon nom, c'est Simon Chenet, c'est ma musique. Mais bien sûr que j'ai envie d'échanger. Ça reste un bon moyen d'une manière ou d'une autre.
Là, je t'invite à aller échanger une chanson... Une chanson, donc je reviens sur le titre, hein, qui est un titre latin d'Amérique latine. Je vais regarder pendant que tu l'interprètes de quel pays est-il originaire. Mais il s'appelle Cambia Sobre El Mar. Il est de Rafael Mejina Romani, qui était un des membres du trio Serenata, c'est ça ? J'ai écouté la version originale, elle est vachement bien, parce qu'il y a une version très connue de Canti, on en a déjà parlé. La version originale de 62, incroyable. Alors que je connaissais bien ce titre en plus, et là je l'ai redécouvert 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt. Extraordinaire.
Une belle chanson, c'est une belle chanson. Thank you.
una vez me quedé ahí dormido en la playa y de pronto soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada, carrusel de colores, parecían la cumbiamba sobre el mar que vise. Mi vice na cambiamba que a sonar de tambuje sobre la guajira, las parejas de estrellas y la luna plateada, carrusel de colores, parecían la cumbiamba. Y de pronto surgió una arena esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecían la cumbiamba. Carrusel de colores, parecían la cumbiamba.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. De retour avec Simon, merci Simon.
Je t'en prie.
C'est bien un titre colombien. Ah. Et Marta, c'était la femme qui a été élue Miss Colombienne, Miss Colombie, pardon, en 1962. Et c'est une chanson qui lui est dédiée. C'est le fondateur du trio. Le trio Serenata qui lui dédie cette chanson pour dire qu'elle est fabuleuse et que c'est une reine.
Et ben voilà. C'est bien, tu me l'apprends parce que c'est marrant, hein, on se fait toujours des films sur les paroles des fois. Et pour moi, c'était assez mystique parce qu'elle surgit de l'eau et tout ça. Ah ouais, j'étais dans la déesse, quoi, moi, dans mon imaginaire.
Bah, c'est ce qu'il dit, hein. Ouais. Il la compare à une déesse, mais c'est, de base, c'est aussi parce que c'est Miss Colombie. Ah
ouais. D'accord. Voilà. Mais c'est très bien, ça met les choses les pieds sur terre et en même temps dans la magie quand même.
Exactement. Alors on va continuer. J'aimerais que tu me parles d'un autre groupe peu évoqué jusqu'à maintenant qui s'appelle Comasi.
Alors il y a pas, on a une belle carrière, puis on signe, puis après c'est un
pas
peu
de,
dur.
Il y a pas,
je fais la transition et à un moment il y a pas, c'est un peu en pause, qui est un beau projet, on est toujours copains mais on joue plus. Et à un moment Donc, je connaissais Koto depuis l'époque de Yapa et Mauricio, comme j'en parlais, depuis longtemps. Et à un moment, tous les trois, on était un peu dans nos projets perso, nos projets de musiciens, accompagnateurs, et c'était un peu mes copains motivés dans la musique. Les mecs qui, quand on voulait, qui avaient des crocs, qui étaient toujours là. Moi, j'avais un plan, je sais pas, tiens, dans trois jours, j'ai un plan pour aller jouer dans une maison de retraite, ça te branche, Koto ou Mauricio, c'est les mecs qui arrivaient, pas de problème, hop, j'arrive, on joue 3-4. Et là, on a eu cette opportunité d'enregistrer un disque à Cuba.
Ah ouais?
Et on en parle. Au début, je ne sais pas trop de quelle manière. Bon, c'est pour la faire courte, il y a eu deux belles rencontres. Donc, le père de Mauricio, lui, travaille avec les musiciens cubains et l'État cubain, puisque la culture à Cuba, bon, là, ça change un peu en ce moment, mais la culture à Cuba est étatique, puisque c'est financé par l'État. Et donc, il travaille avec les musiciens cubains, l'État cubain, et donc il y avait une belle connexion. Et moi, j'ai eu le contact d'une super chanteuse que j'adore. Donc on a eu cette opportunité et on a décidé de partir tous les trois, Koto, Mauricio et moi. Et on a et on a booké le studio. Le studio, ils ont fait Buena Vista Social Club.
Ah ouais,
ah oui.
Rien que ça.
Ouais, et les mecs, avec un ingé son, je crois que c'était 500 balles la semaine.
Ah ouais.
Les 5 jours. Ah ouais, ça donne envie, tu vois. Ça diminue le coût du billet d'avion. Et, ouais. Et du coup, par contre, c'était marrant. On est arrivé, on est allé confirmer la réservation, payer par téléphone, je sais plus quoi, avec, dans les bureaux du ministère. Ah, c'était une vraie expérience. On a signé qu'on était des amis de la Révolution. Donc, mais ça va, parce que Koto et Burkinabé, Mauricio et Chilien, c'est que des pays non alignés, comme on disait. Et donc, on est parti, et ce groupe s'est formé là-dessus. On est parti à Cuba, on a fait des concerts, encore une fois, un séjour, 15 jours, on a tourné 3 clips, enregistré, rencontré des musiciens, fait des concerts. Enfin, c'était le truc où tu rentres, t'as eu 4 vies. Mais j'adore ça, moi. J'y vais pas pour... On a fait une après-midi de tourisme. On est allé à la plage, un jour. Les gars sont allés faire du snorkeling. Moi, j'ai dormi, j'étais tellement crevé. Je me suis mis sur la plage, j'ai dormi, quoi. Je me suis même pas baigné, je crois. Donc, musique avant tout. Mais c'était magique, magnifique.
Combien de temps vous êtes parti?
Je pense 15 jours.
Mmh. En 15 jours, vous avez enregistré un album. Disque.
Ouais, alors après, on l'a fini. On est parti au Burkina. On a fini au Burkina, on a fini en France. Mais c'est-à-dire que là, on n'avait rien enregistré. Contrairement à Yapa, où on avait déjà des prises avant d'arriver au Burkina, là on est arrivé, on a enregistré nos parties, nos compos sur place, on a trouvé des musiciens, on a rentré en contact avec tout le réseau des artistes pros. Et ça donne un très beau disque. Donc voilà. Et ce disque, bah, finalement, on a enregistré un disque voilà, à Cuba, au Burkina et en France, avec un Africain, un Sud-Américain et un Européen. Donc on avait un beau projet, vraiment world music, comme assis. Et donc voilà, c'est un groupe qui a fait un deuxième disque, puis là c'est, ce groupe se finit, peut-être quelques dates qui vont tomber, mais le projet est un peu tombé à l'eau, malheureusement, parce que c'était un beau projet de carrière, pareil, Tourneur, encore un groupe qui a eu un peu de succès, Tourneur, c'est comme ça que je suis un peu rentré en contact avec la Caisse Claire à Sceaux, parce qu'il y a eu accompagnement, des belles dates, New Morning...
So what?
So what? Et, c'était, et à chaque fois, c'était des super concerts, les gens adoraient. Il y avait un truc, il y avait une alchimie entre nous trois. En fait, c'était. Et même politiquement, j'aime bien, c'est que sans dire de grandes choses, tu vois trois personnes qui ont des cultures, qui ont des religions, qui ont des régimes différents, mais quand ils jouent ensemble, et ben, en fait, tout paraît simple. Et c'est ce que j'aime des fois dans la musique, ça transmet quelque chose de positif et d'échange. On voyage, on rencontre des gens, on ramène d'autres choses, enfin. C'est un beau projet. Voilà, il y a deux très beaux disques de Komasi, K-O-M-A-S-I. Komasi, c'est Koto, K-O, Mauricio, M-A-S-I, Simon, S-I.
Et Koto, il a grandi en France ou
non, au Burkina.
Au Burkina.
Il est venu vers 2000... Ben, quand je l'ai rencontré, je pense vers 2008.
Il est venu avec toi, en fait. Tu l'as rencontré là-bas, non. Tu l'as ramené?
Non, en fait, quand le morceau de Yapa a marché, le morceau avec Victor Démé, on nous a présenté des chanteurs, un chanteur malien... Et un chanteur burkinabé, c'était Koto, pour interpréter le titre quand on faisait France Inter, date parisienne, etc. Comme ça que j'ai rencontré Koto. Mais maintenant, c'est une vieille histoire. Parce que même si le groupe est fini, moi, je joue avec Mauricio et Koto à côté. Et Koto m'accompagne.
Et Koto, c'est un batteur.
Il est batteur-chanteur.
C'est ça. Oui, c'est ça la formation musicale de ce groupe, excuse-nous.
Batteur-chanteur. Mauricio, il est chanteur-guitariste. Et moi, j'étais guitariste lead. Voilà.
D'accord. Et eux, ils chantaient tous les deux ou chacun leur tour?
Chacun leur tour. C'était couplé en espagnol et en djoula ou d'autres langues.
Tu peux nous interpréter une reprise de Komasi?
Ouais, je vais vous jouer notre tube Dunia. Dunia, c'est le monde.
On écoute tout de suite Dunia. C'est Dunia, hein?
Ouais.
De Komasi. Un titre de 2021.
Femi bine bolo o madineye Femi ליבי לבולו עומדי ליה מסע יפה מיקה עומדי נה בניפה יפה מיקה עומדי נה או קורו לא קוורי או קורו לא קוורי דוניה דוניה בן בולות דוניה 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 בן בולות דוניה דוניה מוצ'ו דינרו poquito cariño con bolsillos llenos corazón vacío mucho dinero poquito cariño nacido con todo pero falta tanto tengo sonido pero falta canto kawari badido luma masao galonia di doluma Kasa nubadi doluman Kadet shamadi doluman Femi bile bolo omadi neye Femi bile bolo omadi leye Masaye femi ke omadi neye Okoro loko wereye Okoro loko wereye dunia e dunia bambolote dunia e dunia dunia e dunia bambolote dunia e dunia dunia e dunia bambolote dunia e dunia Dunia e Dunia.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. Merci Simon pour ce titre.
Avec plaisir.
Comme un souvenir.
Voilà, je suis content de le jouer. Voilà, justement, comme on joue plus, je me suis dit.
Il est très beau.
Merci.
Et tu maîtrises le langage, c'est quel langage africain ?
Alors, il y a du djoula. Non, je maîtrise pas du tout. Je sais de quoi ça parle, Dieu merci, mais je suis pas très fort en langue. Il y a de l'espagnol à un moment, il y a les couplets de Mauricio et les couplets de Coto en djoula.
Et c'est quoi le djoulia ?
Le djoula, c'est une langue d'Afrique de l'Ouest. Donc, je crois que c'est proche du Bambara, c'est près semblable. C'est une langue que dans plusieurs pays, qui est une langue de commerce au départ. Donc, qui voyage avec un peu de... je pense qu'il y a un peu d'arabe, un peu de... Voilà, c'est une langue qui est... Parce qu'il y a beaucoup de... Au Burkina, il y a plein d'ethnies, plein de langues. Mais le djoula, c'est une langue qui est bien, bien répandue. Et le texte d'Ounia, c'est le monde. Ça dit que ceux qui ont des enfants aimeraient avoir du temps. Ceux qui ont du temps aimeraient avoir de l'argent. Ceux qui ont de l'argent aimeraient avoir... Enfin, tout le monde veut quelque chose qu'il n'a pas. Et voilà, c'est un peu... Il faut arriver à apprécier ce qu'on a. Et on sera jamais... On sera des internels insatisfaits. Ça parle à tout le monde, plus ou moins.
C'est une belle alchimie, ça marche bien, je trouve, les deux langues qui s'entremêlent. Je trouve que c'est super. Le prochain titre que tu vas nous interpréter, là, on change complètement de registre, c'est une reprise également. Après, tu vas terminer avec des titres qui sont de toi. Pourquoi tu as choisi ce titre, Campé, de Cat Campé?
C'était parce que, pour dire, comme là, je faisais plein de titres qui étaient un peu anciens, je suis quand même... tu m'as demandé de jouer des titres, des reprises de choses qui m'inspiraient.
Voilà. Et donc, tu voulais pas que des choses anciennes, tu voulais aussi des choses récentes.
En fait, je suis quelqu'un qui est quand même un gros consommateur de musique aussi. Je suis toujours curieux. Et j'ai pas beaucoup de nostalgie dans la musique, bizarrement, par rapport à tout ce que je raconte là.
Sauf la musette.
Sauf la musette. Je dis n'importe quoi. Je dis tout et son contraire. Si j'ai de la nostalgie des fois. Si la chanson française, la musette, ouais. Vraiment, les choses, ça peut... Ouais. Quand tu rentres de voyage, je peux mettre une vieille chanson française du Jean Ferrat ou du Léo Ferré. Et là, ça me met les poils. Mais non, je pensais plutôt à la musique que j'écoutais quand j'étais ado. Parce que là, je t'ai pas mis du rock, je t'ai pas fait un morceau de Nirvana.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
parce que ça, je réécoute plus trop. Ça va revenir sûrement. J'adore aussi. Hein. Mais je suis souvent... Enfin, tu vois, Nirvana, tu vas toujours l'écouter malgré toi quelque part. Donc, j'ai pas besoin de le mettre chez moi. Mais par contre, voilà, je suis curieux de ce qui sort, hein, parce que la musique, t'es toujours surpris. Soit des choses que t'as ratées, des choses anciennes, soit des choses nouvelles. Et je suis assez curieux de nouveautés. Et bizarrement, j'écoute beaucoup de musique un peu pop ou quand c'est bien produit, ou surtout quand il y a de la guitare. J'aime bien quand il y a de la guitare quand même, mais il y a souvent de la guitare dans la musique pop aussi. Donc je suis quand même à l'affût des nouveautés et je trouvais ça sympa. Là, c'est un morceau que j'aime bien parce que c'était mon tube de l'été dernier.
Voilà. C'est du rap ?
C'est du compas. Le chanteur vient du rap, mais c'est un chanteur haïtien. Il a eu pas mal de succès. Et puis, des fois, tu te retrouves avec d'autres gens. Je repense à... J'ai des nouveaux voisins en face et on les invite à la maison et on parle de musique. Et le gars avait fait du rap et puis il me dit, on était au concert de Joey Doigt de Filette. Je fais, ah mais j'adore Joey Doigt de Filette. Et du coup, ça rapproche les gens et du coup, on en discute. Et...
C'est l'auteur de la... Ouais. L'interprète de la chanson que tu vas reprendre.
Voilà, c'est un français... d'origine haïtienne, et là c'est un morceau pour moi, voilà. Moi j'écoute pas tout ce qu'il fait parce que c'est assez R&B, c'est pas ma... Mais ce morceau qui est très compas, le compas c'est...
Je sais pas ce que c'est le compas.
Le compas haïtien, c'est...
Un peu le grand frère du zouk.
Moi quand j'ai écouté le titre original, ça m'a fait penser à du reggaeton.
Alors, moi j'ai pas mal de disques de compas, alors je sais pas la différence. Compas des années 70, très fan des orchestres de compas des années 70, donc j'aimerais beaucoup aller à Haïti parce que il y a une culture d'orchestre avec de la guitare ouachée, des cuivres et tout. C'est entre la salsa et le zouk, tu vois, un peu entre Kassav et des groupes cubains. C'est la Caraïbe, quoi. Et c'est magnifique, avec aussi quelque chose de très propre, de très original. Et là, maintenant, il y a un nouveau compas qui est plus électronique, qui est plus proche du rap, du R&B, mais qui va sampler. Donc, ce morceau, il sample des vieux morceaux. Et il y a un flow plus rap, plus reggaeton. Le reggaeton, le rap, tout ça, c'est cousin quand même. Donc effectivement, il y a un peu de reggaeton, un peu de compas et...
Je laisse prendre place.
Ouais.
Je suis très curieux de la reprise parce que je me suis dit, oh là là, comment... J'ai vu en concert samedi dernier, j'ai écouté le morceau, je dis, comment Simon va-t-il nous interpréter ça? Donc le titre, c'est 4 Campé de Joey Doigt de Filette, c'est ça?
Filette.
Filette, pas. De 2024, hein, donc c'est un titre très récent.
Ça vient d'en haut, crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout, y'a pas de gâchis. Full baby dans le catmatique. Elle habite solo, ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'serais ton épaule, tell me. Si j't'ai poussé, pay me. Yo Judah, précis comme le sable d'un yakuza. Si tu marches avec moi, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia, da da da. Yo Judah, précis comme le sable d'un yakuza. Si tu marches avec moi, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia, da da da. Baby, j'ai l'étal, vini, da da da. Vini, vini, pas timide, da da da. Ride en Lamborghini, da da da. Chérie, nous sous ça, campé, da da da. Pas mêlé, pas mêlé, non non non. Full bébé, elle bébé, non non non. Pas mêlé, pas mêlé, non non non. Chérie, nous sous ça, campé, da da da. J'y dis, elle enchantée, j'ai des cabis à ne plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Parce qu'on a la santé. Yo Judah, précis comme le sable d'un yakuza. Si tu marches avec moi, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia, da da da. Yo Judah, précis comme le sable d'un yakuza. Si tu marches avec moi, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia, da da da. Baby, j'ai l'étal, vini, da da da. Vini, vini, pas timide, da da da. Ride en Lamborghini, da da da. Chérie, nous sous ça, campé, da da da. Pas mêlé, pas mêlé, non non non. Full bébé, elle bébé, da da da. Pas mêlé, pas mêlé, da da da. Chérie, nous sous ça, campé, da da da.
Personne ne connaissait. Moi, j'ai dû entendre ça, je ne sais où, mais je ne connaissais pas non plus.
Bon, bah,
ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu fredonner ma petite sœur ou quelque chose.
Voilà.
Merci. Tu la chantes en concert, cette chanson? Tu la reprends en concert?
Ça peut m'arriver, mais c'est vraiment quand j'ai envie de me faire plaisir, quoi.
Mm.
Si je vois que c'est... Ça, c'est un morceau... S'il y a de l'ambiance. Tu vois, s'il y a de l'ambiance et que je me sens un peu... Je les mets rarement dans une setlist. Mm. Maintenant, si je vois que les gens ils sont un peu chauds et que... Il y a des gens qui... Ça... Tu vois, ces genres de morceaux, tu sens qu'il y a des gens, ils vont trop kiffer. Mm. Ils vont chanter avec moi.
Il est connu, ce titre.
Gros tube. Mm. Mais effectivement, tube... Comment on dit, musique urbaine.
Ouais.
si c'est ça le terme, mais...
Pour que tu puisses prendre une petite pause, je te propose qu'on diffuse ton titre Domra, c'est ça?
Ouais.
Domra, qui est donc un titre, je veux bien que tu l'introduises, titre de ton deuxième album.
Ouais, comme je disais, Le Jour des Vermeils, donc un disque, je disais, un peu plus folk, peut-être. Alors ce titre-là, il est particulièrement bluesy. Est choisi parce que je m'y attendais pas, mais ce titre a eu beaucoup de succès en streaming. J'ai genre, je sais pas, 250 000 streams de ce morceau, alors que c'était pas du tout... je l'adore, hein, ce morceau.
Mais je m'y attendais pas.
Mais je m'attendais pas à ce que ce soit celui-là qui marche, et je pense qu'il est agréable à écouter. C'est pour ça qu'il a bien plu en streaming.
On écoute tout de suite Domra de Simon Chenet, issu. Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. De retour avec Simon Chesnais, vous venez d'entendre le titre Domra, issu de son deuxième album Le Jour des Vermeils, 2022, disponible sur toutes les plateformes. Comme il nous reste peu de temps, mon cher Simon, on va rapidement passer à l'interprétation des deux derniers morceaux, qui sont des morceaux de toi, qui sont notamment un morceau de ton premier album, Elle m'a dit, premier disque, 2019. Voilà.
J'y vais.
Je te laisse prendre place.
Donc, c'est un texte de Edgar Sekloka, donc un copain. Et j'aime beaucoup ce texte parce que, donc, quand on l'a chanté, j'ai vécu quelque chose. Enfin, mes disques racontent un peu ma vie. Hein. Mais bon, faut me connaître pour comprendre. Mais surtout, ce texte, quand on l'a écrit, je trouve que maintenant, avec du recul, il prend encore plus de sens. Elle m'a dit, tu seras mon mari, même sans la bague. Je t'ai choisi et toute ta vie, faudra que tu me dragues. Elle m'a dit, tu feras pas de folie, sauf à me faire l'amour. On fera des petits, en plus c'est gratuit comme la lumière du jour. Elle m'a dit une famille n'a pas de prix et pourtant ça coûte. Ça coûte des conflits, des joies, des soucis quotidiens du couple. Elle m'a dit sans aucun embâge de ranger tout mon étalage. Que les vrais cadeaux viennent avec l'âge, que trop tôt ils ressemblent à du chantage. Elle m'a dit si le diamant serti était obligé pour qu'on se lie, notre union sentirait l'escroquerie. Elle m'a dit notre petit nid sera parfois une cage pour les piailleries, les cris, le modèle d'économie sera celui du partage. Elle m'a dit tu me trouveras rajeuni malgré l'épreuve du temps. Mauvaise foi, flatterie, réduit l'achat de produits anti-vieillissement. Elle m'a dit ce sera pas le paradis, ce sera pas l'enfer. Pas besoin de devis, pas besoin de bijouterie pour savoir ce qui vaut cher, voir ce qui vaut cher. Elle m'a dit sans aucun embâge de ranger tout mon étalage. Que les vrais cadeaux viennent avec l'âge, que trop tôt ils ressemblent à du chantage. Elle m'a dit si le diamant serti était obligé pour qu'on se lie, notre union sentirait l'escroquerie. Yo 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 wa ya 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 elle m'a dit et j'ai dit oui.
Bravo Simon. On aura l'occasion de discuter de cette chanson juste après. Pour t'éviter des mouvements trop fréquents, je te laisse interpréter la dernière chanson.
The Silly Song. When I feel lost in my mind, there's a voice inside my head, a friend of mine. He's got a safe solution, I need no medication to feel fine. Cause I sing, oh, 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 a silly song. When I wake up in the morning,
remembering my dreams one more time. I don't need to close my eyes, I can see a better world between the lines. And I sing, oh, 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 a silly song. When I'm walking down the streets, I don't know the friends I meet all around. I just need to sing this song to make all the people dance all night long. And I sing, oh, 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 a silly song.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Music Hall. Merci Simon pour ces deux belles chansons.
Merci à toi, merci à vous.
Intéressant, elle m'a dit c'est une belle chanson d'amour, t'en as écrit beaucoup ?
Eh bien oui, quand même. Après si tu regardes sur mes disques, alors après je sais pas si j'ai le temps, je suis un peu bavard, mais... Chacun raconte une période de ma vie.
Il nous reste 10 minutes.
Tu vois, elle m'a dit, il sort, ben, quand on se met en couple avec ma femme au moment de la naissance de notre première fille, puisque ce n'était pas prévu. Mmh. Et donc, ça raconte un peu ça. Donc, c'est le morceau. Le disque d'après, Le Jour des Vermeils, là, on a 3 enfants, tout d'un coup, paf, 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 peu de temps après. Hein, et on emménage à Saint-Arnaud-en-Yvelines, donc ville d'Aragon. Et il y a. J'ai connu Le Jour des Merveilles d'Aragon. Et puis, t'as Les Vermeils, qui était une bande dessinée que je lisais avec mes filles. Donc, ça raconte un peu ça, cette période avec les enfants en bas âge, déménagement à la campagne, tout ça. Face au labyrinthe, c'est un disque qui raconte quelque chose de plus compliqué, où j'ai une période un peu de questionnement,
de doute.
Ouais. Mmh. Aussi bien professionnel, puisque c'est... Quand Comassi s'arrête, bah moi, en fait, comme j'ai dit depuis le début de l'émission, j'étais un mec de groupe ou de chanteur, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que mon projet personnel, qui était un projet annexe, devient mon projet principal. Mmh. Et avec Face au Labyrinthe, et de doutes et de difficultés personnelles, et donc de choix à prendre, de chemin à prendre. Donc, Face au Labyrinthe raconte plus ça. Voilà.
J'adore la pochette, hein. elle est extraordinaire la pochette.
Les pochettes, c'est ma femme qui les fait.
Ah donc, ouais.
Quand elle a fait celle-là au début, elle est super, mais comme c'est un peu une cartographie de mon esprit à ce moment-là, moi ça m'a fait un peu bizarre. Je fais waouh, parce qu'elle me connaît bien.
Ouais.
Je dis là, c'est un peu une mise à nu de ma tête à ce moment-là. Ouais. Bon, je vous rassure, je crois, enfin, je sais pas si on est jamais sorti du labyrinthe, mais en tout cas, je suis plus dans le cœur du labyrinthe, je suis sur le bon chemin.
Bon, ouais, vous regarderez la pochette, c'est très intéressant. L'illustration. Comme il nous reste très peu de temps, déjà je te remercie pour toutes ces réponses et pour toutes ces confidences. Je vais demander si le public a une petite question à poser. Vous avez le droit de ne pas en avoir. Hein. Ou de dire ce que vous avez pensé du moment qu'on vient de vivre. Vous voulez dire quelque chose, madame ? Tiens.
Alors, c'est de la pure curiosité. Quel sera le titre du prochain album et à quel niveau du labyrinthe il se trouve ?
Alors, c'est une bonne question. Et donc, je vais le dire en exclusivité. Le prochain disque va s'appeler Bulle Proxémique. Parce que... je raconte ma vie, hein, mais...
il te reste un peu de temps.
Je suis sorti du labyrinthe pas mal en en réfléchissant sur moi et en faisant un peu de méditation et en recréant un peu mon espace, ma bulle. Et c'est à la fois sur en me retrouvant moi-même que je me rapproche des gens, donc la proxémie. Et c'est un échange, mais c'est aussi me retrouver moi et vraiment réfléchir à ce que je veux, ce que je suis et où je veux aller. Donc il s'appellera bulle proxémique. Donc c'est un peu la sortie du labyrinthe. Pour moi, c'est un peu ça.
Proxémie, ça veut dire quoi?
Qui est proche de toi, en fait. J'ai défini très mal les mots, mais c'est ce qui est tout...
À proximité.
À proximité, ouais.
Super. Tu, quand on a préparé cette émission, tu me disais que tu faisais... Voilà, tu te mettais à interpréter tes titres vocalement, que tu étais guitariste, compositeur beaucoup, arrangeur beaucoup pour les autres notamment, compositeur aussi pour les autres. Ce texte, tu l'as écrit ?
Non, là les textes... j'ai pas écrit de texte encore, peut-être un jour ça viendra puisque je change, hein, mais je suis un amoureux des textes et là... alors elle m'a dit, c'est la première fois que je l'interprète. Sur le disque, c'est Edgar qui le chante.
Donc, c'est même pas toi qui le chante sur le
ouais,
disque.
Moi j'ai composé la guitare, j'ai travaillé la mélodie avec Edgar, mais c'est lui qui a écrit le texte. Et Silly Song, c'est pareil, c'est avec le chanteur suédois Andreas Jacobson, donc c'est pareil, c'est des sessions d'écriture que j'aime beaucoup. On se retrouve avec un chanteur, on discute, on parle de musique, on écrit, on avance, on recule, on écrit une partition, on échange, et moi je peux échanger sur le texte, puisque moi je suis très fan de mots, hein, et de ce que ça veut dire, mais ça j'ai pas passé le cap encore. Et je sais pas si j'ai vraiment envie. Et même chanter, tu vois, c'est en concert, j'ai chanté un ou deux morceaux, mais là, c'est la première fois que je chante autant de titres. Mmh. Mais bon, je prends de plus en plus de plaisir à chanter, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux me surprendre aussi dans les prochains mois, prochaines années.
Au sujet des prochains mois, est-ce que tu peux prendre les dernières minutes qui nous restent pour parler de ton actualité, de tes concerts, de tes nombreux concerts, tournée, etc., pour savoir où est-ce qu'on peut venir t'écouter chanter ces prochains mois.
Alors, j'ai plein de concerts, pas trop à Paris. Je vous encourage à suivre mes réseaux, hein, Simon Chenet, c'est H-E-N-E-T. Et je vais jouer partout un peu en France. Là, je vais jouer à Massy, je crois que c'est le 3 juillet. Mais après, le lendemain, je serai à côté de Rennes, à Montfort-sur-Meux. Après, je serai à Chinon, donc ça, c'est 3, 4, 5. Après, on part avec Joe en tournée dans les Balkans, si vous êtes en Croatie, début juillet. Après, je vais jouer en Corrèze. Je suis plus sûr, Marsillac, la Croisille, on est en juillet, 17 juillet. Après, je descends vers Toulouse. Foix, je joue à Foix, au Léo de Foix, je sais plus si c'est le 1er août ou quelque chose comme ça. Et après, je serai vers Bordeaux au mois d'août. Je joue à Bordeaux même au mois d'août. J'ai pas la date en tête, mais genre le 20 août. Au Fiacre à Bordeaux, je joue sur la côte atlantique.
Ça, c'est pour ton projet solo ?
Ouais. Il y a pas de joke, là, c'est que mon projet solo. Et je serai en septembre à l'Aïle-les-Roses, je crois que c'est le premier samedi de septembre, au Cancan. Donc ça, c'est assez proche. Je vais être... je me rappelle plus toutes les dates, mais il y a plein de dates. J'ai fait 42 concerts cette année.
On les retrouve sur ton réseau de toute façon.
Ouais, je publie, je poste et tenez-vous au courant, il y a plein d'endroits sympas où je joue dans plein d'endroits sympas et les musiciens, ça alterne un petit peu qui m'accompagnent et c'est toujours des belles rencontres et des gens qui amènent des couleurs différentes. Et je pense, alors, il y aura une date parisienne sûre pour la sortie du prochain album à la rentrée 2027. Donc j'espère le New Morning. Tu bois et là je compte sur vous. Voilà.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Simon.
Merci, Barthélémy. Merci, Patrick.
On n'a pas évoqué le fait, juste, je précise, hein, ça c'est plus une dédicace, mais que ton titre de Dounia, le titre original, enfin Dounia, le titre de Comassi, il était en duo, vous l'avez enregistré en duo avec...
Yudelkis Lafuente.
Voilà.
Que je disais, la chanteuse cubaine, cette rencontre, parce que sa voix est magnifique. Et en fait, c'était... Bon, je vais passer vite, mais par des connexions des amis de ma femme, etc. Et quand j'ai eu l'opportunité qu'on a échangé avec elle et son mari, Fernando, rien que sa voix, ça m'a donné envie de partir à Cuba. Et là, en parlant avec Mauricio, qui avait les opportunités par son père, il y avait les choses qui se regroupaient pour partir en Stranisca à Cuba. Et je suis fan de Yudelkis et j'espère retravailler avec elle à l'avenir.
D'accord. Que vous avez des questions, parce que je vais conclure, messieurs, le public... Il nous reste peu de temps, et puis là, comme c'est la fin de la saison, j'ai un tout petit peu plus de choses à dire que d'habitude, pas grand-chose. Mais
Non, mais moi je veux dire un truc, moi je trouve ça, en fait, ton parcours assez fascinant. Du fait aussi que moi je suis aussi un peu comme toi, en musicien, en recherche de plein de choses et tout ça, et moi ce qui me fascine en fait c'est le, on pourrait écrire un livre en fait, tu vois, écrire un livre et puis à chaque chapitre on pourrait mettre un son.
Ouais, c'est vrai. Tu vois,
et c'est fabuleux ce qu'on peut faire en autoproduction en fait.
Parce que oui, il faut pas l'oublier, c'est vrai qu'on on croit souvent que la musique c'est que c'est que les grosses productions. On en parlait de ça encore aujourd'hui avec une copine, là, le CNM qui voit que la musique que par les gros sous, etc. Mais moi c'est ce que j'ai appris de mon oncle, hein. C'est que la musique de tout temps elle a existé par les gens, c'est juste, c'est relatif. C'est que tu joues devant 50 personnes, tu peux toucher les gens autant que si tu jouais devant 5000 personnes. C'est-à-dire que tu gagneras moins de sous et t'auras moins de... Mais même si tu touches plus les gens, il y aura moins d'impact. Mais c'est pareil, c'est la même chose.
Mais ça reste une philosophie et un art de vivre, en fait.
Tout à fait.
Un art de vivre qui fait que tu traverses les périodes de ta vie. Ça t'aide, en fait, à éclairer des choses, à entrevoir des nouvelles perspectives. Si on n'avait pas ça... moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je ferais sans musique, par exemple ?
Moi, je me pose même pas la question. Je ne ferais pas autre chose. Voilà, j'ai des copains, des fois, ils me disent « Ouais, je vais peut-être apprendre à travailler le bois ou faire autre chose. » Mais pourquoi pas ? C'est bien de chacun son parcours. Moi, en tout cas, j'ai compris que moi, c'est... j'ai pas envie de faire autre chose.
Et dernière chose aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que finalement, la musique... aussi la musique instrumentale, en fait, elle parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin de langue, elle est universelle. Et dans les temps, le temps qu'on vit en ce moment, l'époque incertaine, je trouve que c'est un sacré rempart, une sacrée arme, en fait, de pouvoir faire se rencontrer des gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne sont pas de la même culture. Moi, je trouve ça assez fascinant, en fait.
C'est une des forces de la musique, une des magies de la musique, ouais, effectivement, c'est de parler aux gens dans leur cœur. Beaucoup plus vite que si tu l'es dans la discussion. En tout cas, la musique permet d'ouvrir une porte de rencontrer avec les gens rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique.
Où je vous coupe, messieurs.
Allez,
je fais le
jingle.
Voilà, c'est parti. Merci pour votre venue. Merci, merci à vous pour votre venue. Enfin, pour ta venue. Merci au public d'être là. Pour cet entretien, Simon. Merci à la MJC de Sceaux qui a mis à disposition le studio La Caisse Claire pour l'enregistrement de cette émission. Merci à Patrick Destorret, fidèle au poste, Pierre Doé qui était notre ingénieur du son pour l'émission. Merci à Philippe Fischer de Radio Campus Paris pour sa confiance. Et le titre que vous écoutez actuellement, le titre de Mon Habillage, provient du titre Monomania de Sari et Ayad Khalife. Leur album s'appelle Soubia et il est de 2018. C'était la dernière émission de la saison. Je peux pas vous donner d'infos sur l'année prochaine parce que il faut que je discute avec la radio de la suite. Donc suivez mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Barthélémy Fatus, pour connaître la suite de l'aventure de Music Hall. Très bonne soirée à tous.
Au revoir. Barthélémy.
Merci.